Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Au cours de ce sermon aujourd'hui, je vais vous raconter une des plus étonnantes histoires de Noël que vous n'ayez jamais entendues. Mais d'abord, avant de faire cela, je vais vous raconter une autre histoire. Une histoire vraie, quelque chose qui s'est passé il y a environ 3000 ans. Et cela a eu lieu dans un endroit que j'ai eu l'occasion de visiter, plusieurs fois d'ailleurs, en Israël. L'un des affrontements les plus étonnants de l'histoire a eu lieu sur une petite montagne dans le nord-ouest d'Israël, près de la côte. Le site exact sur la montagne n'est pas connu maintenant, mais nous pouvons nous rapprocher de l'endroit à cause de quelques détails qui sont donnés dans la Bible. Mon épouse et moi avons accompagné des jeunes volontaires de l'Église, volontaires pour un projet de bénévolat en Israël et en Jordanie. Et pendant cette visite, nous avons essayé d'imaginer ce qui s'est passé sur le mont Carmel vers l'an 900 avant notre ère. De la crête de cette montagne, on peut voir la plaine de Megiddo, c'est-à-dire ce que la Bible appelle en Apocalypse Armageddon. On peut le voir étendu devant soi. C'est une partie très fertile et verte d'Israël. La montagne était un lieu sacré pour le culte d'un faux dieu, en fait le faux dieu le plus répandu qui sévissait en Israël. Et nous lisons à propos de cet affrontement dans 1 Rois chapitre 18. 1 Rois chapitre 18. Nous allons commencer au verset 1. Reportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Rois, chapitre 18, et nous commencerons au verset 1. C'était une période où le roi Achab était un roi méchant qui adorait, et il s'était marié avec Jézabel, qui venait d'un pays qui adorait Baal, et elle avait fait massacrer les prophètes de l'Éternel pour les remplacer par les prophètes de Baal. Alors lisons maintenant verset 1 de 1 Rois chapitre 18. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la surface du sol. Depuis 3 ans, il n'y avait pas eu de pluie à cause de l'idolâtrie des enfants d'Israël. Et Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Achab dit à Abdias, « Va par le pays, vers toutes les sources d'eau, vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. » Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. La famine était vraiment grande à cause de cette punition que l'Éternel avait envoyée sur Israël, à cause de son idolâtrie. Maintenant, descendons au verset 17. Achab maintenant aperçoit Élie, et verset 17, à peine Achab aperçut Élie, qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Gardez à l'esprit cette expression, les Baals, nous allons revenir à ça tout à l'heure. « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mange à la table de Jézabel. » Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés, si l'Éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, allez après lui ?» Et le peuple ne lui répondit rien. Ça aussi, il faut garder en mémoire. Pourquoi est-ce que le peuple aurait réagi de cette manière-là? Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, il n'y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne deux taureaux, qui choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupent par morceaux, qui le placent sur le bois sans y mettre le feu, et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien, d'accord. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Finalement, à midi, après avoir attendu plusieurs heures, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel, il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et on l'ont rempli aussi l'eau d'eau, le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. » Et ils le saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kisson, où il les égorgea. C'est intéressant de voir que quand Élie s'est présenté devant le peuple d'Israël ici, il a dit, « Choisissez qui vous allez servir. Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, ben servez-le. » Il faut choisir. Et les Israélites n'ont pas répondu d'un mot. Ils ont resté là, muets, devant ce choix. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas répondu? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas choisi? Manifestement, ils ne voulaient pas choisir. Ils ne voulaient pas faire ce choix. Et en fait, comme nous allons le voir, ils n'étaient même pas certains, le peuple, qui devait choisir. Il n'était même pas certain qu'il fallait choisir. Est-ce que vous n'auriez pas aimé voir ça, ce combat entre Élie et les 450 prophètes de Baal? Peut-être pas, ça devait être assez effrayant de voir ce qui s'est passé. Et Élie a fait exécuter ces 400 prophètes de Baal à la source de Kisson. Il n'y a qu'une seule source autour du mont du Carmel. C'est ainsi que nous pouvons savoir à peu près où cela s'est passé. Il y a maintenant un monastère qui a été construit sur la montagne à proximité de cette source. et il y a des marches où on peut s'asseoir, lire ce passage, c'est ce que nous avons fait ensemble, pour essayer d'imaginer ce qui s'était passé lors de ces événements ici. Et l'histoire de Noël? Patientez, nous allons y arriver. Continuez avec moi et j'arriverai à cette histoire. Comme j'ai dit, peut-être que vous vous êtes demandé, ou vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce qu'Élie a dit « Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir ». Est-ce que les Israélites ne l'avaient pas déjà fait? Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà fait un choix? Sûrement les gens faisaient ou l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Ou déjà ils adoraient les Baals, ou ils adoraient l'Éternel d'Israël. Ils ne pouvaient pas faire les deux en même temps, n'est-ce pas? Ou bien? En fait, si, du moins dans leur esprit, ils pensaient pouvoir faire les deux en même temps. Le culte de Baal était l'idolâtrie la plus tenace qui existait en Israël. Baal est mentionné pour la première fois dans Genèse chapitre 36, Genèse chapitre 36, verset 38, avant même qu'il y ait une nation d'Israël. Genèse 36, verset 38. Baal, Anan, fils d'Akbor, mourut et Adar régna à sa place. Nous avons un roi ici qui est nommé d'après Baal. Le culte de Baal existait déjà à ce moment-là, avant même qu'il y ait une nation d'Israël. C'était un culte qui était très ancien. Là, c'est un roi d'Édom, un descendant d'Ésaü, qui était nommé et appelé après Baal. On est ici aux environs de 1500, au moins 1500 avant Jésus-Christ. Le prophète Jérémie, plus tard, s'est plaint du culte de Baal à Jérusalem dans les années 600, plus ou moins, avant Jésus-Christ. Donc, 1000 ans après, le culte de Baal est toujours présent. Les gens adoraient Baal pendant très très longtemps. Et entre ces deux périodes, eh bien, Gédéon, David, Élie, Jéhu, Josaphat, entre autres, ont combattu le culte de Baal. Comme j'ai dit, c'était un culte très tenace. Avant même qu'Israël n'entre dans la terre promise, Balaam et Balak ont envoyé de belles jeunes femmes dans le camp d'Israël pour inciter les jeunes hommes à adorer Baal. Certainement dans les rites de fertilité qui faisaient grande partie, qui étaient très intégrés dans le culte de Baal. Les rites de fertilité, cela supposait des rapports sexuels. Alors ces jeunes femmes sont allées pour dire « Coucou les garçons, nous avons un culte, nous allons faire une soirée très sympa chez nous en honneur de Baal. Et nous ferons en sorte que ça en vaille la peine pour vous. » Et beaucoup de jeunes hommes sont tombés dans le piège. Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. Verset 1. Nombre 25, verset 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal, Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Oui, ça c'était l'œuvre de Balaam et de Balak. Nous avons une référence à cela aussi dans Apocalypse chapitre 2. Le souvenir en est gardé dans le Nouveau Testament de ce qui s'est passé. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Apocalypse 2, dans la lettre écrite à l'église de Pergame, nous avons une référence à Balaam et à Balak de nouveau. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Mais, Jésus dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Et c'est ce que Balaam a fait. Il a envoyé les filles pour dire, venez avec nous, adorez Baal, et il y a ces rites de fertilité, vous pourrez y participer. Quel était le résultat? Eh bien, si vous suivez le récit de Nombre 25, Moïse a fait exécuter chaque participant à cette idolâtrie, parce que l'Éternel n'acceptait pas, et n'accepte toujours pas, l'idolâtrie. C'était la peine de mort qui était appliquée pour ceux qui se sont laissés aller. Quand on étudie l'histoire d'Israël, on voit que le culte de Baal était cyclique. Un roi commençait à adorer Baal et Dieu punissait Israël. Le prochain roi a appris par la punition et il arrêtait le culte de Baal. Le peuple prospérait. Mais bientôt, la leçon était oubliée, et parfois, le prochain roi, après le roi qui avait corrigé le problème, le prochain roi allait retomber de nouveau dans le culte de Baal. Le livre des Juges, les livres des rois et les chroniques sont remplis de ces histoires, ce cycle d'idolâtrie au Baal. Après Josué, par exemple, qui était très fidèle, ce cycle a redémarrer. Juges chapitre 8. Juges chapitre 8, verset 33. Juges chapitre 8, verset 33. Ici, ce n'est pas après Josué, c'est après Gédéon. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal pluriel, noté. Et ils prirent Baal Bérit pour leur Dieu. Après la mort de Gédéon, tout comme cela s'était fait après la mort de Josué, eh bien, Israël retombe dans l'idolâtrie de Baal. Si nous allons un peu plus loin dans 1 Roi chapitre 16, 1 Roi chapitre 16, verset 32, mais prenons le verset 30, 1 Roi chapitre 16, verset 30, pour mieux voir le contexte. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Dans la ville capitale de son pays, il a construit un temple pour Baal, et il participait au culte de Baal. Dans 2 Rois chapitre 10, 2 Rois 10, c'est cette idolâtrie d'Achab qui a mis la scène pour cet affrontement que nous avons vu dans le passage entre Élie et les prophètes de Baal. Mais dans 2 Rois chapitre 10, verset 18, 2 Rois chapitre 10, verset 18, c'est le roi Jéhu maintenant qui règne. Puis il assembla tout le peuple et leur dit, « Achab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit publier une fête en le nom de Baal et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans tout Israël et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y eut pas un qui ne vienne. Ils entrèrent dans la maison de Baal et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal, et Jonadab, fils de Rekab, et il dit aux serviteurs de Baal, cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. Ils n'entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, « Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. » Lorsqu'il eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, « Entrez, frappez-les, et que pas un ne sorte. » et ils frappèrent du tranchant de l'épée, les coureurs et les officiers les jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal, les brûlèrent, renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal. Ils en firent un cloc qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Voilà ce cycle dont nous parlons. Un roi l'embrasse, Dieu punit la nation, un autre roi plus juste reconnaît ce qui s'est passé, extermine le culte de Baal, mais il ne faut pas très longtemps avant que le tout commence. Ah, vous attendez toujours l'histoire de Noël. Nous allons y arriver, hein, encore un peu de temps. Quel était ce culte de Baal au juste? Eh bien, fondamentalement, Baal était le dieu du soleil, aussi le dieu de l'orage, de la tempête, dieu de la foudre, et aussi, comme je l'ai déjà mentionné, dieu de la fertilité. Les rites sexuels de la fertilité faisaient partie de son culte. Nous l'avons déjà vu dans Nombre chapitre 25. C'est ainsi que Balaam a pu causer la mort de 24 000 Israélites. Et nous avons déjà lu plusieurs fois qu'il n'était pas question de Baal seulement, mais les Baals. Les Baals au pluriel, parce qu'il n'y avait pas un seul, il y avait des Baals. Le culte de Baal était le culte d'un panthéon, entier, beaucoup de dieux, tout un système de divinités. Et en plus, le culte de Baal était syncrétiste. C'est peut-être un terme que vous connaissez déjà. Syncrétiste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça, le syncrétisme? Eh bien, voici une définition selon le dictionnaire biblique Harper's. Le syncrétisme, soit une combinaison consciente de deux ou de plusieurs religions sur une courte période de temps, soit un processus d'absorption par une religion d'éléments d'une autre sur une longue période de temps. Dans les deux types, les éléments absorbés sont généralement transformés et changent de signification dans le nouveau contexte. Je répète, soit une combinaison consciente de deux ou de plusieurs religions sur une courte période de temps, soit un processus d'absorption par une religion d'éléments d'une autre sur une longue période de temps. Dans les deux types, les éléments absorbés sont généralement transformés et changent de signification dans le nouveau contexte. Le culte de Baal était syncrétiste. Il était prêt, ce système, à emprunter d'autres dieux et à les insérer dans leur structure, les insérer quelque part dans leur système. Par exemple, El, le dieu El, faisait partie du panthéon de Baal. Dans le panthéon du culte de Baal, Baal régna sur la terre avec la permission d'El, qui était un dieu au-dessus de Baal. Ça, c'est encore une fois selon le dictionnaire biblique Harper's. Et nous savons que El est l'un des noms utilisés par l'Éternel dans la Bible. Donc le culte de Baal avait pris le Dieu d'Israël et l'avait mis dans leur système syncrétique. Nous savons que la Bible parle de Dieu comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, ou El Elyon, et il y a d'autres noms qui sont employés pour l'Éternel, se servant de ce mot El. En d'autres mots, les adorateurs de Baal ne considéraient pas leur culte comme un choix exclusif. C'est pas qu'il fallait adorer l'Éternel ou Baal. Ils pensaient qu'on pouvait adorer les deux. On pouvait mélanger. On pouvait combiner les deux dans le grand système des Baals. Ils pouvaient adorer Yahweh et Baal. Ils pouvaient garder la fête des tabernacles et les grandes cérémonies du culte du soleil. Ils pouvaient garder la fête des pains sans levain, mais sans abandonner ces rites de fertilité passionnants, n'est-ce pas? Ils mélangeaient le tout. Autre citation du dictionnaire biblique Harper's. La lutte contre le culte de Baal fut mené avec force par les prophètes d'Israël, surtout au IXe siècle avant Jésus-Christ. Il y avait beaucoup en jeu. Le culte de Baal était populaire. Beaucoup de noms israélites ont été composés avec des éléments de Baal. Bien que le mot Baal peut se référer à Yahvé, puisque Baal veut dire Seigneur, donc on pouvait appeler Yahvé Seigneur, dans l'ensemble, de tels noms peuvent être pris comme preuve de l'érosion de la dévotion stricte à Yahvé. Il y a au moins 15 noms de lieux différents associés à un Baal dans l'Ancien Testament. Baal de ceci ou Baal de cela, Baal Péor, par exemple, nous l'avons lu tout à l'heure. Citation maintenant du dictionnaire biblique Hastings. Quand Israël entra en Canaan, le culte des Baalim, ça veut dire les Baals, im, im, c'est le pluriel en hébreu, le culte des Baalim était présent partout. Comme il était surtout associé à l'agriculture que les Israélites apprirent des Cananéens, il y avait un danger qu'ils adoptent les fêtes religieuses liées aux diverses saisons agricoles et succombent ainsi à la fascination mortelle du culte de la nature sensuelle des habitants plus anciens. C'est ce qui se produisit. Ce qui a été aggravé par la coutume que nous trouvons chez les Israélites à parler de Jéhovah en tant que Baal, le Seigneur. Puisque Baal n'était pas un nom propre, mais seulement un titre, Seigneur, cette coutume était parfaitement innocente et tout ce qui voulait dire était que Jéhovah était le propriétaire divin de son peuple ou le mari d'Israël. Mais le double usage du terme Baal pour la divinité locale et pour Jéhovah tendait à produire une confusion entre eux, et par le syncrétisme, la conception de Jéhovah était dégradée par des éléments empruntés au culte de la nature, et le glissement vers l'idolâtrie est devenu plus facile. Ça, c'est le dictionnaire biblique Hastings. Également de ce dictionnaire, avec Ahab, une nouvelle phase émerge. Le Baal dont le culte a été établi par Ahab était Melkar, le Baal de Tyr, selon 1 Roi chapitre 16 verset 32. Nous avons donc ici une instance d'un Baal local vénéré par un pays étranger. Le culte de Melkar, c'est toujours une citation, le culte de Melkar n'était pas destiné à remplacer le culte de Jéhovah, mais à coexister avec lui. C'est Élie qui imposa à l'esprit populaire la conviction que Jéhovah et Melkar étaient mutuellement exclusifs. Élie a dit, choisissez, suivez l'un ou suivez l'autre, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas mélanger ces divinités et avoir un culte commun pour les deux. Élie a dit, pas de syncrétisme. Choisissez l'un ou l'autre, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Quand Dieu a donné les 10 commandements, le premier commandement qu'il a donné était, tu n'auras pas d'autre Dieu avant moi. Cela veut dire, tu n'auras pas d'autre Dieu sous mes yeux. Tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi. Le premier commandement visait le syncrétisme. Il ne fallait pas mélanger le culte de l'Éternel avec des cultes païens. Il ne pouvait pas le mêler à un système de culte syncrétiste où l'Éternel allait simplement s'intégrer dans un panthéon à côté d'autres divinités. Mais Israël a continué d'essayer d'avoir les deux en même temps. Ils aimaient le syncrétisme. Dans Osée chapitre 2, dans les petits prophètes, verset 16, Osée chapitre 2, verset 16 et 17, Osée chapitre 2, verset 16 et 17, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai des vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au jour, au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Mais le mot maître, là, c'est Baal. Selon la version Osterwald en français, au lieu de « mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître », c'est traduit par « mon Baal ». Tu m'appelleras plus ton Baal, tu m'appelleras autre chose. Ils appelaient l'Éternel leur Baal, et l'Éternel ne voulait pas de cela. Il ne voulait pas ce syncrétisme qui mélangeait son culte à un culte de faux dieux. Comprendre cela rend plus facile le fait de comprendre certaines choses que Dieu a dites à Moïse dans Deutéronome, par exemple. Regardons Deutéronome chapitre 12. À la lumière de ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous pouvons mieux comprendre ce que Dieu dit ici, dans Deutéronome chapitre 12, verset 29. Deutéronome chapitre 12, verset 29. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations des nations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Ils avaient déjà eu une dispute, on peut dire, avec Baal, dans le désert, avant que Moïse ne leur répète la loi ici dans Deutéronome. Ces versets sont spécifiquement destinés à un culte syncrétiste. Dieu refuse cela. Il ne veut pas être mélangé à de faux divinités ou à des cultes à de faux divinités. Et ça, c'était également un problème dans le Nouveau Testament. Mais si les Israélites adoraient Dieu, même si l'origine était païenne, s'ils le faisaient pour Dieu avec de bonnes intentions, avec un amour sincère pour l'Éternel dans leur cœur, est-ce que ça ne pouvait pas quand même être bien aux yeux de Dieu, si vraiment il le faisait sincèrement en l'honneur de l'Éternel? 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. Est-ce que la sincérité dans notre désir d'adorer Dieu peut être plus importante que les détails du fait que certains aspects du culte sont venus du paganisme? 1 Samuel chapitre 13, verset 5. 1 Samuel chapitre 13, verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Avon. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Les Philistins étaient plus nombreux, mieux armés, probablement mieux disciplinés également, et les Israélites avaient très très peur. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller dans le pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendait 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Samuel avait dit, je serai là en moins de 7 jours. Les 7 jours se sont écoulés, les enfants d'Israël ont pris peur, et son armée commençait à se disperser. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Mikmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. Ben, il fallait que je prie, il fallait que je fasse l'offrande pour avoir la bénédiction de Dieu sur ce que j'allais faire. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Mais c'était avec de bonnes intentions. Je voulais faire du bien. J'avais le cœur sincère à adorer l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu que l'Éternel ton Dieu t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Saül était bien motivé, n'est-ce pas? Il aimait Dieu. D'après ce que nous lisons ici, il voulait avoir la bénédiction de Dieu, il était sincère, il avait un bon cœur, mais il n'a pas fait ce que l'Éternel lui avait dit. Et c'est ça qui primait. Faites ce que je vous dis. Il n'est pas question de la disposition de votre cœur, ça a son importance, mais avant tout cela, il faut faire exactement ce que je dis. Le fait que vous ayez un bon cœur ne vous dispense pas de faire ce que je vous dis, exactement ce que je vous dis. Il a sacrifié à Dieu, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas une bonne chose, parce qu'il ne l'avait pas fait comme Dieu lui avait dit de le faire. Il est en train de faire des choses à sa façon, à sa manière, comme cela lui semblait juste. Et Dieu a dit non, je n'accepte pas. Inacceptable. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Jésus a répété le même principe. Nous ne pouvons pas dire, « Ah, mais j'ai le cœur bien disposé, hein, je veux bien faire du bien à l'Éternel. » Ça ne compte pas si on ne fait pas exactement ce que Dieu nous dit. Marc chapitre 7, verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Si vous ne m'adorez pas comme je vous dis de le faire, c'est en vain. Vous avez beau avoir bon cœur ou prétendre avoir bon cœur, etc., etc. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, c'est en vain. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Changez les choses. Laissez tomber ce que Dieu dit pour s'attacher à autre chose. Philon de Byblos, le grammarien et l'historien des années 63 à 141 de notre ère, a écrit une histoire phénicienne en grec dans laquelle il a assimilé Baal à Zeus, Jupiter. Ça, c'est selon le dictionnaire biblique de Harper. Baal était le dieu de la tempête et Zeus était le dieu de la tempête. Il y avait des éléments du culte du soleil impliqués dans les deux. Le dieu suprême des gréco-romains n'était qu'une continuité du culte de Baal qui existait avant. Ainsi, le culte de Baal a continué sous un autre nom dans les empires grecs et romains. Et même au-delà de ça, jusqu'à nos jours aujourd'hui, ce culte continue. Certaines parties du culte du soleil sont encore là, très visibles dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, comme le fait de célébrer le solstice d'hiver, le 24-25 décembre. Encourager le soleil affaibli, parce que jusqu'à là, le soleil descend dans le ciel, jour après jour, l'arc devient de plus en plus bas, et les gens, à l'époque, avaient peur que le soleil ne disparaisse complètement. Donc, il fallait encourager le soleil. Comment est-ce qu'il faisait ça? Avec la lumière, avec des feux et de la lumière. Il brûlait de grosses bûches. Il mettait autant de lumière possible, en particulier la nuit. Il célébrait. Ils faisaient la fête, ils échangeaient les cadeaux. Et on voit la continuité de ça aujourd'hui. Je vois dans ma rue, des gens commencent à mettre des lumières sur la maison, sur les arbres, etc. Ce sont des vestiges du culte de Baal. Jusqu'au début des années 300, les chrétiens ont été souvent objets de persécution de la part de Rome. L'empereur Dioclétien divisa l'empire en 4 sections et il a installé un César sur les 4. Puis en 312, l'empereur Constantin, qui dirigeait la Gaule, cette partie de l'Empire romain, il s'est rendu à Rome avec ses légions pour se battre contre Maxence, qui était l'empereur à Rome. Maxence aurait, soi-disant, avait des pouvoirs magiques, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et selon Eusèbe de Césarée, historien de l'époque, avant la bataille, Constantin avait prié le ouvre guillemets, Dieu suprême, fermez les guillemets, pour l'aider. Et la réponse qu'il a reçue, du moins d'après lui, c'était une croix brillante sur le soleil, et le soleil à l'époque était le dieu principal de Constantin, ainsi que les mots conquis par ceci. Et cette nuit-là, dans un rêve, Jésus lui a apparu, d'après lui, et il lui a dit d'utiliser le signe probablement les deux premières lettres grecques du mot Christos, comme une garantie dans tous ses engagements contre ses ennemis. Il avait fait une grande croix sur ses drapeaux de guerre, il avait placé des croix sur l'armure de ses soldats, il a gagné cette bataille, et il est devenu l'empereur. Toutes ses armées ont marché sous le signe de la croix. Quelques années après, il a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Il ne comprenait pas tout à fait le christianisme. Il confondait Dieu le Père avec le Dieu Soleil, et dans son esprit, il avait une compréhension très mélangée de la religion en général. À sa grande déception, il a vite découvert que les dirigeants chrétiens n'étaient pas d'accord entre eux sur certaines doctrines essentielles. Certains observaient le dimanche, d'autres encore le sabbat. Certains observaient les Pâques, d'autres observaient encore la Pâque. Et il y avait aussi d'autres différences. Il a donc, Constantin, convoqué une grande réunion de dirigeants à l'église en 325, à Nicée, en Turquie aujourd'hui, pour organiser les églises et les mettre sur la même page. Beaucoup ne sont pas venus. Mais il présidait les réunions et il poussait tout le monde à se mettre d'accord sur les doctrines. Il avait besoin d'une église unie pour unir le peuple de son empire. Le dimanche a été adopté officiellement, ainsi que les Pâques, et il condamnait, refusait ceux qui voulaient continuer avec le sabbat et la Pâque. Le christianisme était devenu la nouvelle religion de Rome. Le culte païen et le culte chrétien se mélangeaient par cet homme qui ne comprenait pas vraiment le christianisme. Les Romains ne voulaient pas renoncer à leurs aspects préférés du culte qui remontait au culte de Baal. Et c'est ainsi qu'un grand mélange a continué entre les pratiques religieuses romaines et le christianisme officiel de Rome. Citation maintenant de l'Encyclopédie britannique à propos de cette période de l'année, la période de l'année où nous sommes maintenant. Son respect, comme l'anniversaire du Sauveur, est associé à des coutumes séculières souvent tirées de sources païennes. En effet, à la fois Noël et l'Épiphanie, qui tombent 12 jours plus tard, le 6 janvier, c'est là où nous avons les 12 jours de Noël, sont une transformation des célébrations païennes du solstice d'hiver et sont si étroitement liées que leurs origines ne peuvent être discutées séparément. Vous ne pouvez pas parler des fêtes de fin d'année sans parler des solstices, du solstice d'hiver. Le 25 décembre, je continue, Encyclopédie britannique. Le 25 décembre à Rome était la date d'un festival païen choisi en l'an 264 de notre ère par l'empereur Aurélien comme anniversaire du soleil invaincu qui, au solstice d'hiver, commence à remonter dans le ciel. Il y a plus de clarté, une augmentation de la lumière. Les coutumes traditionnelles liées à Noël ont été dérivées de plusieurs sources à la suite de leur coïncidence de la fête de la Nativité de Christ et de l'observance agricole païenne, culte de fertilité et solaire du milieu de l'hiver. Dans le monde romain, les Saturnales, qui allaient du 17 au 24 décembre, furent une période de réjouissance et d'échange de cadeaux. Mais bien que les festivités de Noël aient été indirectement influencées par ces coutumes, le fait que Noël ait été célébré lors de l'anniversaire du soleil invaincu a donné à la saison un arrière-plan solaire lié au calende de janvier, c'est-à-dire le 1er janvier, quand on décorait les maisons de verdure et de lumière, qu'on offrait des cadeaux aux enfants et aux pauvres. À ces observances solsticiales s'ajoutaient les rites germano-celtiques de Yule, c'est-à-dire Noël, lorsque les tribus teutoniques pénétraient en Gaule, en Grande-Bretagne et en Europe centrale. Les bûches de Noël, les gâteaux de Noël, la verdure, les sapins, les chants, les cadeaux et les salutations sont tous issus de cette saison. Au 8e siècle, Saint Boniface acheva la christianisation de l'Allemagne et consacra le sapin à l'enfant saint pour remplacer le chêne sacré d'Odin. Aux États-Unis, les coutumes traditionnelles furent d'abord supprimées, comme en Angleterre sous le Commonwealth, à cause de l'objection puritaine à leur origine païenne. Les pères pèlerins aux États-Unis ne fêtaient pas Noël. Mais depuis le milieu du 19e siècle, les célébrations sont devenues de plus en plus populaires et commercialisées. Fin de citation. J'ai lu récemment l'histoire d'un chasseur russe qui est allé à la chasse d'un ours. C'était un hiver rigoureux et il avait froid. Il voulait un manteau de fourrure d'ours. Il a suivi l'ours, l'a traqué dans la forêt et finalement il a acculé. Alors qu'il braquait son arme, l'ours dit « Attends, il n'y a pas besoin de nous battre. Je suis sûr que nous pouvons négocier un arrangement, un compromis qui nous plaira à tous les deux. Qu'est-ce que tu veux ?» Le chasseur a dit « Je veux un manteau de fourrure. » « C'est bien, dit l'ours, ce que je veux moi, c'est d'avoir le ventre plein. » « Asseyons-nous et discutons-en. » Alors ils se sont assis, ils ont discuté, et ils ont trouvé un compromis. Les négociations ont été couronnées de succès. Puis l'ours se leva, seul, et s'éloigna. Ils avaient tous deux ce qu'ils voulaient. L'ours avait le ventre plein, et le chasseur avait un manteau de fourrure, tout autour de lui. Moralité ? Le compromis satisfait rarement les deux parties dans la même mesure. Le compromis satisfait rarement les deux parties dans la même mesure. Devrions-nous nous souvenir et commémorer la vie de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous? Absolument. Dieu a mis cela fait partie de notre culte. Dans Luc chapitre 22, verset 19, Jésus a dit « Comment nous devons faire pour nous souvenir de lui ?» Luc, chapitre 22, verset 19. Luc 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Observe la Pâque en souvenir de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Dans Luc chapitre 6, verset 46, Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous ai expliqué comment il faut faire pour m'adorer, pour vous souvenir de moi. Pourquoi est-ce que vous m'appelez votre Seigneur, celui à qui vous obéissez, si vous ne m'obéissez pas ? C'est un non-sens. » Et Jean, chapitre 4, verset 23. Jean, chapitre 4, verset 23. Jésus dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité, selon ce qu'il dit, pas selon leurs propres idées, pas selon leurs propres coutumes. Alors, frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Dieu voit le syncrétisme différemment aujourd'hui que ce qu'il a dit dans la Bible, à l'époque de Jésus, à l'époque d'Israël ancien? Est-ce qu'il voit des choses autrement qu'il a fait au temps de Moïse, d'Élie, d'Osée? Pensez-vous que ça dérangerait l'Éternel si nous l'adorions, si nous adorions Jésus-Christ le jour de la célébration du Dieu Soleil, pour autant que nous le faisions de bon cœur pour Jésus, si nous avons de bons sentiments, si nous sommes bien motivés? Peu importe à Dieu que nous mêlions quelques coutumes romaines, quelques coutumes tribales germaniques de fertilité, du culte du soleil, pourvu que ce soit d'honorer Dieu. N'est-ce pas? C'est ça qui compte, non? Dieu ne verrait pas d'inconvénient à ce compromis, n'est-ce pas? Eh bien, frères et sœurs, me voilà arrivé à la fin de mon sermon d'aujourd'hui. Et je suis vraiment désolé parce que nous n'avons pas eu le temps de voir cette histoire intéressante de Noël. Ou bien,